6h04, mardi 15 septembre. Bonne journée, bienvenue au 98.5 FM. Alors, une belle journée encore une fois. Du soleil, 17 degrés. C'est une très, très belle semaine que nous avons. Il y a peut-être un peu de pluie mercredi soir là, et dans la nuit de mercredi à jeudi. Mais essentiellement, c'est du soleil le jour. Donc, 24 pour mercredi, 19 pour jeudi, 15 pour vendredi. Et pour le week-end, notons que samedi-dimanche, on prévoit 14 et 17 degrés. Les nuits sont nettement plus fraîches. Ce matin, je sais qu'en périphérie de Montréal, c'était autour de 6-7 degrés. Et à Montréal, comme tel, c'était 13 et on prévoit que ça va descendre comme ça jusqu'à 3 degrés dans la nuit de samedi à dimanche. Commençons ce matin par, évidemment, le dossier COVID parce qu'il y a des éléments qui sont intéressants. D'abord, le docteur Sylvain Leduc, qui est le directeur de la santé publique dans le Bas-Saint-Laurent, semble avoir le souffle coupé par l'évolution de la situation. Le Bas-Saint-Laurent était une des régions les moins affectées par le nombre de cas positifs. Et cette région-là est devenue, très rapidement, l'endroit où la transmission en communauté est la plus forte. Ça veut dire que, pour regarder les chiffres, quand quelqu'un est infecté, ça montre qu'il en a infecté plusieurs autres. Et on parle principalement de jeunes qui ont été testés. Il y a eu des regroupements, il y a eu des parties, et ça a fait augmenter le nombre de cas positifs. D'ailleurs, je vais le citer ce matin, il dit qu'environ 20 % des jeunes qui ont reçu un diagnostic positif continuent de sortir. Donc, ils savent, là. Ils ne sont pas en attente d'un résultat. Ils sont au courant, mais ils font comme si de rien n'était. Ils vont dans les bars, ils font des courses. Et le docteur Leduc dit qu'il faut maintenant passer dans un mode plus coercitif parce que ça n'a plus de bon sens. Et les gens ont l'air de penser que d'être testé positif, c'est pas grave. C'est peut-être pas grave parce que tu n'as pas beaucoup de symptômes ou t'en as peut-être même pas. Mais tu peux transmettre le virus à quelqu'un pour qui les effets vont être drôlement plus sévères. Ce qui va amener le gouvernement, point de presse à 13h cet après-midi, avec François Legault, pour probablement, on aura les nouveaux chiffres, là, mais c'est à coût de 250, 260 par jour. Et je rappelle que la bonne nouvelle, c'est qu'au chapitre des décès et des hospitalisations, pour l'instant, c'est plus que sous contrôle. Et le docteur Weiss nous disait hier matin, pour l'instant, ça va. Mais si cette tendance s'accentue, il va y avoir une énorme pression sur le réseau de la santé, quelque part en octobre, probablement. Donc, est-ce que d'autres régions pourraient changer de couleur? Vous connaissez les codes, le vert, le jaune, l'orange et le rouge, où là, on a des mesures beaucoup plus strictes. Et c'est ça l'approche du gouvernement. C'est pas du mur à mur, c'est de dire, on va regarder région par région comment ça se passe et on va intervenir avec des mesures. Donc, Bas-Saint-Laurent, ça risque de serrer la vis. Je ne sais pas s'il y a des auditeurs qui nous écoutent par le web du Bas-Saint-Laurent, la grande région, mais attendez-vous peut-être à des nouvelles contraintes qui vont s'ajouter. D'autre part, on a également eu la confirmation que la Croix-Rouge va prolonger sa mission. En tout cas, Québec a besoin d'aide. Pourquoi? Parce que on sait que depuis que l'armée s'est retirée, on a demandé à la Croix-Rouge d'intervenir. La Croix-Rouge qui fait un travail exceptionnel d'organisation et prennent souvent le relais des machines bureaucratiques qui ont de la misère à survivre et de bord. Et là, prenons l'exemple des cliniques de dépistage. Dans des régions, ça marche parfaitement. Dans d'autres régions, c'est beaucoup plus difficile. Et quand vous dites qu'il y a des gens qui attendent pendant 7, 8, 9, 10 jours pour avoir le résultat de leur test, ça n'a pas de maudit bon sens. Puis là, on me dira, oui, mais quand c'est positif, on le dit plus vite. Mais t'es chez vous, là, toi. T'attends ton résultat, tu vas pas travailler, tu t'es placé en quarantaine. Puis t'as pratiquement fini ta quarantaine quand on t'annonce que finalement, t'es négatif. L'autre chose qu'il faut également regarder, c'est bien sûr, je vous dirais, ce que j'appelle les opportunistes de la crise. Dans la presse ce matin, on apprend que pour combler le manque de ressources dans les centres de soins de longue durée, on a embauché des travailleurs au noir dans des CHSLD, pas juste des résidences privées, des gens qui étaient payés donc en dessous de la table, des immigrés, des gens qui n'avaient pas davantage. On n'était même pas dans les normes minimales du travail au Québec. C'est Vincent Larouche qui a découvert ça. Et ce sont des enquêtes qui sont longues, dit le comité paritaire de l'entretien d'édifices publics. Et parmi les établissements, une compagnie derrière ça qui s'appelle Promax, qui avait obtenu un sous-contrat. T'sais. Autrement dit, le centre est débordé, fait appel à une entreprise privée qui, à son tour, est débordée, puis envoie ça à un autre sous-traitant qui s'appelle Promax, qui a fourni des travailleurs d'entretien ménager, CHSLD Dorval, centre d'hébergement Lachine, le centre d'hébergement Nazaire-Piché, le centre d'hébergement La Salle, puis l'ex-hôpital général de Lachine. Et ce sont des gens qui travaillaient parfois 12 heures par jour, à peine 13 $ l'heure, payé en argent comptant. Et là, tu dis, ça se passe dans des établissements publics. Alors là, ben c'est le passage de rondelle, tu comprends? Les gens du CIUS de l'ouest de l'île disent, ben nous, on n'avait pas le choix, on manquait de personnel, on est passé par une agence. La personne de l'agence dit, ben qu'est-ce que vous voulez, on n'était pas au courant. Et celui qui est visé dans cette histoire-là, le Promax, l'entreprise, ben, refuse de répondre aux questions. Alors, il y en a combien de gens qui sont exploités de cette façon-là, qui débarquent, qui ont peu de connaissances de la langue et qui se retrouvent à faire de l'entretien ménager dans des conditions d'esclavagisme? C'est de l'exploitation pure et dure. Et je suis convaincu qu'il y en a d'autres qu'on va voir apparaître. Maintenant, puisqu'on parle de préposés aux bénéficiaires aussi, là, je vais vous lire un courriel qui résume assez bien la situation. Entrent en service les préposés qui ont été formés à la vapeur cet été pour justement avoir du personnel dans les unités et pas se retrouver avec un taux d'absentéisme élevé. Le gouvernement a promis 26$ de l'heure, 49 000 par année. Ça garantit emploi à temps plein, là. Ça doit faire 15 fois que je soulève cette question-là. Il y a une bataille syndicale, État, gouvernement, là, qui fait en sorte que ce n'est pas réglé. Puis, il y a la négociation au sens large là, des conventions collectives. Un cas, je vais l'appeler Alexandre. Alexandre travaillait, je devrais dire, dans le secteur de la construction. Il dit, j'ai 40 ans, puis là, j'ai senti l'appel. Puis je me suis dit, m'a travaillé dans mon coin. Et en même temps, je pense qu'il y avait la lecture du courriel, était fasciné par le défi qui lui était présenté. Et finalement, lui, il commence aujourd'hui. Là. Et on lui explique que son salaire est de 20,55 $ plus les primes. On n'est pas en mesure de lui dire à quel moment il va faire 26 $. On n'est pas en mesure de lui dire si ça va être rétroactif. Et, je le cite, « Je suis un peu coincé. Je suis obligé de respecter l'entente, sinon il faut que je rembourse les montants qui m'ont été versés pendant la formation. Puis il faut que je reste là pendant un an. » Autrement dit, le gouvernement n'est pas obligé de respecter ses engagements, alors que moi, je suis obligé de respecter ses engagements. On va écouter le ministre Christian Dubé, qui était à l'antenne la semaine dernière, à qui j'ai posé la question la semaine passée, la semaine d'avant, puis l'autre semaine aussi.
On a pris un engagement ferme que ces gens-là allaient avoir un poste à temps plein, qu'ils allaient gagner 49 000 $ par année en commençant. On s'y est engagé et lorsqu'ils vont être à l'emploi le 15 septembre, on va respecter nos engagements.
Ça, c'est le message et l'engagement. On n'a pas de raison de douter que c'est la volonté du gouvernement, sauf que ça négocie. Et quand je vous dis, là, c'est une partie de bras de fer avec le syndicat, parce qu'il y a tous les effets collatéraux de ça. Si tu amènes les préposés à 26, les autres catégories d'employés vont demander quoi, vous pensez? Et Barrette le disait à l'époque aussi, là. Tu veux privilégier un groupe parce que tu as besoin d'attirer de la main-d'œuvre, bien là, c'est toujours impossible parce qu'on entre avec des augmentations sur les autres, pour les autres travailleurs. Et on sait que le principe syndical, c'est mur à mur, et même niveau d'augmentation. On n'est pas chaud à l'idée de mettre des variations. Alors, je vois ça ce matin dans le Journal de Montréal, puis je comprends les gens, puis là, la CSN est là, puis elle dit, bien, c'est ça les conditions de travail. Puis je peux même en ajouter des gens qui ont répondu à l'appel « Je contribue », puis que là, ils se font tasser vers des emplois moins payants. Puis certains dans ça peuvent faire autre chose que de l'entretien ménager. Alors, au moment où on se parle, j'imagine que de la négo, on a demandé une entrevue avec la présidente du Conseil du Trésor, Maître Sonia Lebel, qui ne commente pas, qui ne parle pas pendant la négo, mais la vraie vie, là, c'est qu'il y a plein de gens ce matin qui vont travailler, mais qui ne croient pas le gouvernement. Là. Malgré, je peux vous faire entendre le message de M. Dubé 15 fois, là, l'engagement est là. Sauf que, terrain, l'engagement n'est pas concrétisé. Et là, les gens se disent, ben, moi, je ne veux pas rembourser, fait que je vais y aller. Puis il y en a d'autres qui, je dirais, y vont l'esprit libre en disant, ben, on verra, puis j'imagine que ce sera rétroactif. Je ne peux pas croire que le gouvernement ne respectera pas sa parole, son engagement là-dessus. 6h15 minutes. M. Brière est là. Peut-être un mot pour compléter ce dossier-là sur l'école. Dans Le Devoir ce matin, très bon article concernant les problèmes d'aération, les problèmes de ventilation dans les écoles. Beaucoup d'écoles sont vétustes, beaucoup d'écoles ont besoin d'amour, d'entretien. Et il y a des gens qui sont débrouillards, puis je pense que ça vaut la peine de souligner ça. Depuis le printemps, on a fait une dizaine d'appels d'offres pour réaliser un aménagement de classe extérieure. Il y a beaucoup d'écoles qui vont vers ça. Pas toutes, peut-être une question d'espace. Et on donne ce matin des exemples. À Gatineau, les élèves de l'école primaire anglophone Pierre-Éliott Trudeau suivent une partie des cours sous un chapiteau blanc. On a commandé cet été 3 tentes, puis ça coûte 3 000 $. Et il y a la docteure Marie-France Reynaud, spécialiste en santé publique, qui plaide depuis plusieurs mois en faveur des cours à l'extérieur ou dans des espaces semi-couverts, en disant qu'on aurait dû faire ça pour la rentrée scolaire, jusqu'à temps où le climat va faire en sorte qu'on va devoir retourner à l'intérieur. Mais pourquoi est-ce qu'on passe pas plus de temps à l'extérieur, surtout dans les écoles où on est confronté à un problème de ventilation? Vous lirez ça dans Le Devoir ce matin. Super intéressant. Bon, l'autre chose, ça concerne les fameux crédits voyage. Je sais que l'émission La Facture a fait un reportage là-dessus, va présenter un dossier ce soir. Et vous êtes très nombreux à m'écrire en disant « Mais qu'est-ce qui se passe? » Depuis le début, je pense que c'est clair, la compagnie n'a pas été en mesure de fournir le service. Je veux me faire rembourser. Je ne veux pas de crédit. Je ne veux pas de crédit applicable dans un an ou deux. Je ne sais pas où je serai rendu. Je ne sais pas ce que je vais faire dans 2 ans. Et si je te verse un montant pour un voyage, puis que tu n'es pas capable de me rembourser, puis que dans le fond, tu prends mon argent pour rester à flot, on a vu les mises à pied chez Air Transat qui s'en viennent, là. Je suis en train de te financer. Et il y a d'autres transporteurs aériens dans le monde qui ont accepté de rembourser les gens. Et Air Canada, Air Transat, donc les gros transporteurs disent, si on fait ça, on casse. Et ce qui montre qu'au fédéral, avec la fameuse charte des voyageurs qui a été présentée par le ministre Marc Garneau, on parle ici d'une loi qui n'a même pas de dents, qui n'a même pas de dentier. C'est une loi qui, évidemment, favorise les transporteurs. Je ne veux pas qu'Air Transat fasse faillite, moi, là. Je ne veux pas que Air Canada fasse faillite. Mais on ne parle pas de petits montants, des gens qui ont investi de l'argent. Je regardais la facture, il y a le cas d'un mariage. Tu comprends? Tu vas te marier en République, mettons, puis que les amis prennent des billets d'avion, puis des réservations, puis tout ça est annulé. Puis là, on dit, ben, tu prendras un voyage quand tu pourras. Puis en plus, ce qui est frustrant, c'est qu'il y a plein de conditions pour être capable d'utiliser ton crédit voyage. As-tu acheté ça dans le cadre d'un forfait? As-tu acheté juste des billets d'avion? Tu sais, c'est pas le montant que la compagnie. Et si par hasard, il y a différence de prix, elle favorise le transporteur au détriment du consommateur. Donc, on va regarder ça ce soir à l'émission La Facture. Bon, le Vieux-Port de Montréal, le chef directeur du service de police de la ville de Montréal sera avec nous tantôt. Moi, j'ai 2-3 questions. Là, je ne veux pas trop les télégraphier. Mais il me semble que 30 projectiles, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Et des gens innocents qui ont été blessés. Heureusement, tout le monde va s'en sortir. Et quand vous regardez la fiche, on l'a fait tantôt avec Marie-Laurence, tu dis, mais comment ça se fait que ce bonhomme-là est en liberté? Quelle sorte de contrôle on exerce? Je comprends qu'on ne peut pas être 100% puis mettre un policier à la porte de chaque résidence où quelqu'un est supposé respecter ses conditions de libération, mais quand même. Aussi, ce matin, on va parler d'un autre cas de coucou comique qui a fait des menaces au chef intérimaire du PQ, à Pascal Bérubé, ainsi qu'à sa conjointe, Annie Soleil Proto, qui les deux sont avec nous tantôt. Et c'est sans doute le même genre là, de réponse quand la police débarque. Bien, c'est pas ça que vous voulez dire. Des épais, là, tu sais, qui pensent que sous le coup de l'impulsion du moment, c'est pas grave. Vous irez sur le site de la station écouter l'entrevue avec Denis Galland qui explique les conséquences légales de cette histoire-là. Aussi, Robert Lafrenière a témoigné hier. Philippe Bonneville va nous résumer ça. M. Lafrenière dit qu'il n'a pas quitté l'UPAC à cause de l'affaire Ouellette. Quand même quitté le jour de l'élection, ce qui est assez particulier. Et son argument, c'est de dire qu'il n'avait plus l'énergie pour diriger l'UPAC. Alors, c'est le procès du numéro 3 de l'UPAC, M. Forgette, qui, lui, dit-il, a été congédié. On prétend qu'il a démissionné. On dit que M. Lafrenière a annoncé son départ avant même que sa lettre soit signée. Et que tout ça pour une histoire de vente d'actions. Et que le gouvernement, par une décision politique, a voulu s'en débarrasser. Alors, il poursuit le gouvernement pour 2 millions. C'est une histoire quand même qui commence tranquillement, là, le procès. Mais ça nous permet de voir comment l'UPAC fonctionnait, puis le climat toxique, des relations de travail difficiles au sein de l'UPAC. Et ça ne fait que commencer. Puis je finis avec le fameux pasteur Monette, dont on a beaucoup parlé ici, là. Alors, Mario Monette, autoproclamé pasteur, sa tendre et charmante épouse Carole Van Hout ont plaidé coupable à une série d'accusations, donc de mauvais traitements imposés à leurs enfants. Et là, ça comprend séquestration, menace de mort, causer des lésions. Et le bon pasteur disait qu'il fallait frapper des enfants pour les éduquer correctement. Et encourageait les membres de sa secte à faire la même chose avec leurs enfants. Et ça a duré, là, pour les 8 enfants, une période de 25 ans. Ça se poursuit aujourd'hui au Palais de justice de Longueuil. On verra la sentence qui sera imposée. Il est 6h23 minutes. La métropolitaine, monsieur.